autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Vernon-Raison à la réalisation pour changer de perspective aujourd'hui sur le vivant et sur l'évolution en nous demandant, puisque les êtres vivants meurent, qu'est-ce qui perdure dans le vivant? Qu'est-ce qui se transmet de génération en génération au-delà des individus ou des entités qui le composent? Quel est le fil de la vie? De quoi est-il constitué? Si ce n'est des informations, des messages portés et transmis, mais comment? Comment décrypter ces messages, ces conversations du vivant qui, au fil du temps long, tissent la trame de nos vies? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités, le biologiste Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et le chercheur en intelligence artificielle et sciences cognitives Jean-Louis Dessalles, qui viennent de publier « Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant » autour de la question « Quel est le fil de la vie ?» Bienvenue. Bonjour Jean-Louis Dessalles.
Bonjour.
Bonjour Pierre-Henri Gouillon.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour tenter de dérouler le fil de la vie carrément. C'est le titre de cet essai que vous venez donc de publier aux éditions Odile Jacob avec le chercheur Cédric Gaucherel, spécialiste lui des écosystèmes. Pierre-Henri Gouillon, vous êtes biologiste, spécialiste des sciences de l'évolution, de la génétique et de l'écologie, professeur et chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Comment en êtes-vous venu à tirer, ou plutôt à chercher à dérouler ce que vous appelez le fil de la vie?
En fait, je travaillais sur l'évolution et des histoires un peu compliquées d'évolution du sexe chez le thym en particulier m'ont amené à me rendre compte que ça n'avait aucun sens de parler de la réussite évolutive d'un individu parce que tous les individus meurent. C'est une constatation assez simple. Et donc, évolutivement, on pourrait dire que tous les individus sont des échecs, mais en réalité, on est obligé, si on veut comprendre l'évolution, de se rendre compte que ces individus, avant de mourir, ils ont transmis quelque chose à leurs descendants. Et que tout compte fait, la sélection naturelle qu'on applique aux individus, elle ne s'applique pas vraiment aux individus, mais à cette entité qui est transmise de génération en génération, puisque si un individu produit beaucoup de descendants, il va transmettre mieux ses informations. Donc, on va appeler ça une information. Et du coup, je me suis mis à me demander, mais qu'est-ce que c'est que de l'information? Alors voilà, j'ai commencé à pas mal phosphorer là-dessus, et puis j'ai rencontré Cédric Gaucherel d'abord, et puis Cédric a contacté Jean-Louis Dessalles, et on s'est mis à travailler ensemble sur cette question.
Voilà. Jean-Louis Dessalles, vous êtes chercheur en intelligence artificielle et en sciences cognitives. Vous avez notamment travaillé sur les origines biologiques du langage. Donc ce fil immatériel de la vie, on pourrait dire que c'est une sorte de langage de la nature et de l'évolution?
Presque. Presque. C'est d'abord cette métaphore du fil nous a beaucoup plu à nous trois. Je me souviens qu'au début, quand Cédric, moi je connaissais les travaux de Pierre-Henri Gouillon, et puis quand Cédric m'a contacté et qui m'a dit mais c'est la même chose pour les écosystèmes, j'ai cru qu'il nous parlait de manière très métaphorique. Et puis à force d'en parler entre nous, on s'est aperçu que pas du tout. C'est-à-dire que on peut prendre ce qui finalement est de moins en moins une métaphore, mais qui colle vraiment au vivant, cette idée du fait que l'information perdure, dure, à travers les générations, c'est juste une question de changement de point de vue. C'est-à-dire que si on se place à une échelle de temps beaucoup plus longue, comme l'a dit Pierre-Henri, les êtres meurent, les êtres disparaissent, ce qui reste c'est l'information qui les définit. Et donc, si on pousse ce point de vue jusqu'au bout, on s'aperçoit que, par exemple, la théorie de la sélection naturelle porte non pas sur les vivants, non pas sur les êtres vivants, non pas sur les espèces, mais finalement, la seule façon de lui donner un sens précis, c'est de parler de la lutte pour la survie des informations. Donc voilà, c'était
un sacré changement de point de vue
même pour nous-mêmes, parce que... On n'a pas écrit ce livre, on l'a écrit à six mains, mais on l'a écrit en se réunissant beaucoup. C'est un mini-club qui s'est réuni et on a écrit ce livre.
Pour essayer de faire avancer les idées, les recherches et les idées sur l'évolution autour de la question quel est le fil de la vie. Je vous propose de commencer par le tirer, ce fil, à partir des pistes de réflexion sonore déroulées par Apolline Vernon-Raison dans son mix.
J'ai un fil dans la poche, le fil de la vie. Je le tire. Voilà ce qu'il me dit.
Il y a la femme dans l'effort, l'effort dans la poussée dans le souffle dans les poumons. Les
certaines espèces disparaissent alors que d'autres apparaissent. Bref, la vie est en perpétuelle évolution.
Vous détenez, sans le savoir, une somme d'informations inimaginables.
La flore dans la forêt dans la nature dans la culture dans...
Pourquoi la génétique permet-elle de retracer l'histoire de l'espèce humaine?
Chacun sait que notre destin est inscrit dans nos gènes.
Le monde vivant évolue, mais les organismes individuels n'évoluent pas. Ils se reproduisent et ils meurent.
Il suffit de conserver ce qu'on veut pour la reproduction à la génération suivante.
Les propriétés des êtres vivants doivent nécessairement s'expliquer par la structure et les interactions des molécules qui les composent.
Un fil, le fil de la vie.
Ce qu'on reçoit de nos ancêtres, ce n'est pas seulement le message qui est dans les chromosomes sous forme d'ADN, mais c'est aussi l'état dans lequel se trouvaient les cellules ARN de nos ancêtres.
L'information qu'on trouve dans nos cultures, dans nos langues, ces informations ont une durée de vie infiniment supérieure à celle des individus.
Il n'y a pas de place pour tout le monde, seuls certains réussissent à survivre et à se reproduire.
Le gène égoïste.
Les instructions pour le développement de chaque corps humain sont codées par 4 unités répétitrices de la molécule maîtresse appelée ADN.
Ceux qui n'ont pas de poils sont les plus beaux. Et dans ce cas-là, ceux-là se reproduisent mieux. Ils transmettent mieux leurs gènes et petit à petit aussi, on peut avoir de l'évolution.
Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, et quelle que soit votre apparence, vous possédez les secrets de notre origine sur cette planète.
Le fil de la vie qui nous traverse tous. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre, Pierre-Henri Gouillon ?
On pourrait réagir pendant toute l'heure, mais il y a effectivement... Bon, on s'élève un petit peu contre l'idée que notre destin est écrit dans nos gènes. Ça,
tout, c'est n'est pas, tout n'est pas
une
écrit.
Une manière hein. Un peu hard de dire les choses. Et je pense qu'effectivement, d'ailleurs, le mot « instruction qui a été employé aussi, on s'est rendu compte que la métaphore informatique avait fait un peu de mal à la vision informationnelle du vivant en réalité, parce que la vision qu'ont les gens, en tout cas, de cette métaphore, c'est qu'il s'agit d'un programme qui doit se dérouler inéluctablement de la façon dont il est écrit. Or, on le sait, d'ailleurs, ça a été dit dans une des interventions qu'on vient d'entendre, que ne sont pas hérités que les gènes, mais aussi, d'une part, l'état dans lequel se trouvent les cellules, ça, on vient de l'entendre.
C'est Bernard Dujon, d'ailleurs, de l'Académie des sciences.
Bernard Dujon, voilà. Et puis, en plus, toute la culture, et donc un environnement construit, les organismes vivants construisent leur environnement, et donc ils se transmettent 3 choses qui sont ce message génétique, l'état des cellules, et puis l'environnement construit, et les écosystèmes, etc. Donc ça fait beaucoup, et la culture, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'informations.
Qui sont transmises, donc c'est pas seulement une métaphore ou une analogie, mais ces informations, ces messages, ça veut dire que ce qui perdure dans la vie, c'est quelque chose d'immatériel. Jean-Louis Dessalles.
C'est l'image qu'on en retire, c'est un peu choquant parce que si on est un petit peu... Tous les biologistes sont professionnellement matérialistes et on en vient à dire que ce qui est vivant est quelque chose d'une entité immatérielle. C'est l'information. L'information, personne ne peut la toucher. Mais pourtant, à chaque moment, l'information repose sur un substrat matériel. Mais si on la suit à travers le temps, à travers les âges, elle change totalement de support. Nous sommes habitués à ça avec l'information. Maintenant, à l'ère de l'informatique, on est habitué à ce que l'information passe d'un support magnétique à un support sur des transistors, puisse éventuellement être imprimée sur un papier. Donc, c'est pareil dans le vivant. Mais si on nous dit maintenant que c'est l'information qui est vivante elle-même... Que la lutte pour la survie concerne non pas les individus, non pas les espèces.
Oui, puisqu'on meurt tous, voilà, en fait. Enfin, les individus, les êtres vivants, voilà. Les entités.
Et les molécules d'ADN.
Les molécules d'ADN aussi
meurent tous.
Disparaissent.
Voilà.
Voilà. Et donc, on en vient à l'idée que. Il y a ce petit hiatus qui donne un petit vertige. C'est toujours agréable d'être un peu.
Surpris par ce qu'on découvre. Voilà. Et ce n'est pas uniquement parce qu'aujourd'hui, effectivement, la métaphore du message, de l'information, elle nous est peut-être plus aisée à cause de l'informatique, mais ce n'est pas à cause de cela que vous y réfléchissez de manière scientifique. Ça aide un peu.
On est obligé. Enfin, le point de vue qu'on a adopté tous les trois, c'est qu'on est obligé d'adopter cette façon de voir. Dès qu'on s'intéresse à des phénomènes à long terme, dès qu'on s'intéresse au vivant qui a une mémoire, nous n'avons pas le choix.
c'est pas une vision de la biologie qui s'oppose à la vision, on va dire, traditionnelle, qui s'intéresse aux organismes, à l'observation directe, par exemple des molécules ou de l'écosystème en ce moment. Mais dès qu'on passe à long terme, ces choses-là s'effacent, disparaissent. On a un petit peu, pour prendre une image, ça serait la différence qu'il y a entre un film qui va très vite et puis une image, un instantané. Un instantané, c'est des pixels, mais dès qu'on s'intéresse au film lui-même, on voit des personnages qui se déplacent, des images, des objets en mouvement, alors que chaque image est une image fixe, instantanée. On a la même chose avec le fil de la vie qui traverse ces âges. Donc c'est pas un choix. À l'arrivée, on est obligé d'avoir une description informationnelle.
Pour parler de l'évolution sur le temps long, autour de la question quel est le fil de la vie et qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes, on va remonter le fil tiré par le poète Robert Desnos, que vous mettez en exergue de votre livre chanté par Yves Montand, La colombe de l'arche, sur RFI, plus explicite peut-être qu'un long discours.
Maudit, maudit soit le père. Maudit soit le père de l'épouse du forgeron, du forgeron, du forgeron qui forgea, du forgeron qui forgea le fer de la cognée avec laquelle le bûcheron, avec laquelle le bûcheron abattit le chêne, abattit le chêne dans lequel, le chêne dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père de l'homme qui conduisit la voiture. Maudit soit le père de l'épouse du forgeron qui forgea le fer de la cognée avec laquelle le bûcheron abattit le chêne dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père de l'homme qui conduisit la voiture dans laquelle ta mère rencontra ton...
C'est toute notre histoire, chantée par Yves Montand, Pierre-Henri Gouillon.
Bah oui, c'est ce fil incroyable qui fait que c'est quand même vertigineux quand on y pense. Hein, tout ce qu'il a fallu pour qu'on soit là, chacun. Et il a fallu donc que toutes ces choses se produisent. Et ce fil est nécessairement ininterrompu depuis l'origine de la vie. Il y a une continuité informationnelle, et d'ailleurs cellulaire, hein.
Toutes qui s'est nos transmis, cellules, transformé, qui a été lu, porté par...
Depuis des milliards d'années, hein, tout ça s'est transmis. Si à un moment ça s'arrête, bah, c'est terminé pour cette lignée-là, ça sera un autre fil qui repartira d'ailleurs, mais il n'y a pas moyen que le fil s'arrête et reprenne plus loin.
Autour de la question, quel est ce fil de la vie ? Je vous propose tout de suite une nouvelle question posée par le physicien et neuroscientifique Rémi Lestienne, spécialiste de l'émergence.
Le fil de la vie, c'est une belle image. C'est vrai que l'ADN contient toute l'information nécessaire pour construire un être vivant. Mais ces derniers temps, on se penche aussi et de plus en plus sur tout ce qu'on appelle les mécanismes épigénétiques et sur les interactions avec l'environnement. Or, ces interactions avec l'environnement sont très importantes pour définir ce que sera l'être vivant dans sa maturité. Ma question serait la suivante. De ce qui est inscrit dans notre code génétique et de nos influences et de l'influence qu'a sur nous l'environnement, les événements que nous vivons, les échanges que nous avons avec nos semblables, qu'est-ce qui finalement est le plus important ?
Pierre-Henri Gouillon, que pouvez-vous répondre ?
Alors je répondrai qu'effectivement, il n'y a pas toute l'information qu'il faut pour constituer un être vivant dans l'ADN. De même que il n'y a pas toute l'information qu'il faut dans une recette de tarte aux pommes pour faire une tarte aux pommes. En réalité, une recette de tarte aux pommes, comme une molécule d'ADN, ça ne fait rien. C'est extraordinairement stable, c'est un message. Et un message, pour que ça soit bien conservé, ben, il faut que ça soit justement absolument amorphe. Le papier, c'est bien pour écrire des choses parce que ça ne bouge pas. Encore mieux si on grave sur de la pierre. Et l'ADN, c'est pareil, c'est une molécule qui ne fait rien, elle est totalement amorphe, elle ne bouge pas. Et donc, et d'ailleurs, une recette de cuisine, tout compte fait, si jamais vous ne savez pas la lire, eh ben, elle ne contient pas d'informations. Elle contiendra de l'information que le jour où il y aura un un lecteur qui va transformer cette information en action. C'est ce qu'on appelait un décodeur. Il y a un message, mais le message en lui-même ne vaut rien s'il n'y a pas un décodeur.
Donc il y a un message, un alphabet, des lettres, une exactement. Écriture, ça, mais il faut un décodeur derrière pour
lire. La chose remarquable, c'est justement cette ressemblance incroyable, je trouve, entre l'écriture sur l'ADN, avec quatre symboles qui, par leur combinatoire, vont pouvoir prendre un sens grâce à tout un code génétique. Ça, on n'a pas le temps d'en discuter en détail, mais tout ça existe. Et... donc, ce système-là va être décodé par un décodeur. Alors, les messages, la recette de cuisine, bah, c'est le cuisinier, le décodeur. Et tout ça va se produire dans un environnement donné qui va influencer la façon dont le décodeur, d'ailleurs, agit, hein, selon la forme de la cuisine, la nature des pommes, etc. Votre
et cuisinier
ne fera
pas
pareil.
Et nos gènes, le décodeur, donc, il est intégré
Alors, voilà, le décodeur de nos gènes, mmh. c'est notre organisme, c'est notre cellule. C'est-à-dire qu'un gène n'est jamais transmis sans rien autour. Il est toujours transmis dans une cellule. Et c'est dans cette cellule qu'il va prendre son sens. Toute la cellule est faite pour le lire. Et d'ailleurs, la cellule est elle-même incluse dans un organisme qui va lui-même tout entier, parce que nos hormones changent la façon dont nos cellules lisent l'ADN. Et puis, tout ça va se trouver dans des écosystèmes. Donc, il y a un emboîtement de niveaux de décodage de l'information qui est tout à fait extraordinaire.
Et tout ça n'est absolument pas statique et en mouvement et en lien avec et l'environnement.
Absolument. Et c'est alors, ça. L'information épigénétique, c'est l'information qui est contenue dans le décodeur. C'est-à-dire que nos cellules se donnent une certaine manière de lire notre ADN. Chaque cellule va lire certains gènes plus que d'autres, etc. Elle va le faire en fonction de la façon dont, d'une certaine dynamique de la lecture du génome qui est plus ou moins prévue, mais en plus en interaction avec les autres cellules autour et avec l'environnement. Et tout ça va être transmissible pendant un certain temps. Alors, c'est transmissible déjà le temps de la vie de l'organisme, c'est-à-dire que quand une cellule est faite pour faire des cellules nerveuses, eh ben, elle ne va pas faire la même chose qu'une cellule musculaire, elle ne va pas lire les mêmes gènes, et ça, c'est transmissible à l'échelle de les générations cellulaires. Et puis, on découvre récemment qu'il existe aussi des phénomènes de transmission épigénétique à plus long terme que ça. On croyait qu'au moment où on fabrique les enfants, on remettait à zéro tous les compteurs. Et qu'on
y avait plus du neuf,
voilà,
vraiment
on faisait complètement du neuf. C'est quand même globalement vrai, mais il y a des phénomènes de modification des méthodes de lecture de l'ADN qui sont transmissibles à la génération suivante. Donc on connaît des exemples de molécules, des perturbateurs endocriniens par exemple, qui peuvent perturber la reproduction des individus, mais aussi leurs descendants. On connaît un cas de famine chez des gens dans un village du nord de l'Europe où on retrouve encore des effets physiologiques de cette famine qui a eu lieu il y a trois générations chez les enfants, chez les vivants actuels. Donc voilà, on sait que cette information épigénétique peut se transmettre à un certain temps. Il est clair que quand même, comme on relie tout le temps les gènes et qu'on refabrique la structure biochimique de la cellule à partir de ce qu'on lit de l'ADN, sur le long terme, c'est probable que cette information s'efface derrière l'information de l'ADN, mais elle a un rôle réel à l'échelle des organismes.
Et du coup, quand on dit information, on dit mémoire aussi. Enfin, il y a évidemment, c'est lié à une mémoire. C'est ça qui transmet ou qui se transmet,
oui,
Jean-Louis Dessal.
Tout à fait. Donc, c'est ça le point central. C'est qu'il faut une mémoire. Il faut un observateur, donc Pierre-Henri l'a dit, donc un observateur capable de lire cette mémoire, de la révéler. Si j'inscris quelque chose sur une pierre et que cette pierre est perdue pour tout le monde, est-ce que c'est une information? Pas vraiment.
Cette information n'est vivante que s'il y a une mémoire, voilà, c'est ça.
Si je pense que plus tard quelqu'un va la lire, donc du coup c'est une information potentielle qui va devenir une information actuelle au moment où elle est lue. Alors ça, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut définir, on a une définition assez claire de l'information, ce qui n'a pas toujours été le cas. L'avancement de la recherche nous permet d'avoir de nouvelles définitions de l'information qui cadrent mieux avec ce qu'on essaie de définir. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut absolument un observateur. C'est-à-dire que l'information objective n'existe pas, au moins pour les objets finis, dirait un mathématicien, mais l'information n'existe pas.
Donc ce fil de la vie, il faut qu'il soit réactualisé dans un observateur,
Il y a beaucoup de fils.
Il y a
autant de fils qu'il y a d'observateurs.
Eh bien, on va y revenir sur tous ces fils en deuxième partie. Si vous voulez bien, nous continuons de tirer donc le fil immatériel de la vie dans 3 minutes. On se retrouve juste après le flash d'info pour continuer de décrypter tous ces messages, ces conversations et ces fils du vivant qui font de nous ce que nous sommes. Autour de la question, quel est le fil de la vie? À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie. Autour de la question « Quel est le fil de la vie ?», nous continuons à décoder les informations, les messages du vivant, ceux qui perdurent au-delà des individus, de génération en génération, pour porter un autre regard sur l'évolution avec nos invités, le biologiste Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Jean-Louis Dessalles, chercheur en intelligence artificielle et en sciences cognitives, qui viennent de publier « Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant » aux édition Odile Jacob. Alors comment se le représenter, ce fil de la vie? Notre reporter Charlie Dupieux a posé la question à deux étudiantes en illustration scientifique à l'école Estienne à Paris, Romane Amis et Marine Jouard, qui ont illustré l'ouvrage de l'Académie des sciences sur les origines du vivant.
Je verrais plus ça comme un arbre gigantesque avec plein de ramifications, mais qui va dans une seule direction forcément. Une sorte d'arbre phylogénétique.
Pour ma part, le fil de la vie, je visualise ça plutôt comme un nautile, en fait. Enfin, une grande créature marine, un coquillage un peu, qui a une coquille spiralée. Je demanderais pragmatiquement, pour une fois, de quelle manière, eux, ils représenteraient ce fil, en fait, en tant que scientifiques. Nous, on est illustratrices, donc on a donné notre point de vue, mais eux, en tant que scientifiques, comment ils le dessineraient, quoi, visuellement?
Est-ce qu'il est possible à dessiner ce fil immatériel de la vie, Pierre-Henri Gouillon?
J'avoue que moi, je ne suis pas illustrateur, alors j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. J'ai vraiment cherché des représentations. Je m'étais demandé d'ailleurs comment faire. Je crois que, en réalité, c'est très compliqué parce qu'on voudrait pouvoir montrer quelque chose d'immatériel, justement. Et dès qu'on le montre, ça prend une allure matérielle. Je me demande si on ne le montrerait pas mieux avec... De la musique, par exemple, on pourra peut-être essayer.
On pourrait essayer tout à l'heure, effectivement, avec de la musique, c'est de manière, au fond, peut-être tactile, en faisant appel à d'autres sens pour essayer d'imaginer. Vous illustrez ce livre par le rêve du douanier Rousseau, mais essayer d'imaginer, au fond, plus que de visualiser ce fil immatériel de la vie, Jean-Louis Dessalles.
Je suis un peu comme Pierre-Henri, je suis pas très visuel. Tout de même, par moments, à force de filer cette métaphore, c'est pour le dire. Je pensais toujours au fil au pluriel, ce qu'on disait un petit peu dans la première partie. Et donc, au pluriel,
j'imagine... Il y a autant de fils qu'il y a d'histoires.
Voilà, et donc, un tissu. Alors, parfois, je pense à un tissu, une trame. Parfois aussi, quand je pense que les fils passent à travers moi, j'imagine les fils d'une marionnette. Je serai la marionnette, les fils qui me soutiennent. Bon, c'est des métaphores qui ne marchent pas très bien. Mais bon, voilà. Quand même, ça nous a pu l'imaginer, cette continuité à travers les âges comme étant celle d'un fil. L'aspect immatériel, dans une course de relais, on passe à un témoin. Ce témoin serait carrément virtuel.
Voilà, donc c'est pas vraiment une course de témoins. Et vous dites aussi, vous l'avez dit en première partie, Jean-Louis Dessalles, qu'au fond, il y a autant de fils que d'histoires. C'est-à-dire que tout ce qui est vivant, et à tous les niveaux et à toutes les échelles, a une mémoire, se transmet des informations, et c'est ça même c'est cela même le fil de la vie.
Voilà, c'est la mémoire qui permet cette continuité à travers le temps. Donc si on regarde vers le passé, on imagine cette trame, ces fils comme ceux d'une histoire. On pense à l'histoire de nos gènes, mais il y a beaucoup d'autres histoires. Par exemple, dans le langage, les étymologies, par exemple, ou l'histoire des idées, l'histoire des rumeurs. Tout ça, c'est une histoire, si on regarde vers le passé. Si on regarde vers le futur, on imagine cette compétition qu'ont tous ces éléments informationnels entre eux. Et voilà, on peut imaginer de parier sur tel ou tel.
C'est-à-dire que ce sont ces informations, donc par exemple effectivement une langue ou une culture ou un écosystème, Pierre-Henri Gouillon, ce sont les informations qui passent. Et quand Darwin parlait d'évolution et du plus fort qui gagne, au fond c'est l'information, quoi, celle qui reste en mémoire, celle qui reste dans nos gènes, qui se transmet à la génération suivante, la langue, la culture ou la musique qui va rester.
Absolument, Darwin ne possédait pas ce concept d'information, ça c'est clair. Il a bien vu que il ne possédait pas la génétique, il ne comprenait pas comment se produisaient les variations entre êtres vivants et surtout comment elles se transmettaient de génération en génération. Je pense que c'est la spécificité extraordinaire du vivant, d'être capable de transmettre des variations à la génération suivante. Et cette transmission de variations se fait par transmission d'informations. Alors, c'est vrai que l'information, on dit qu'elle est immatérielle, elle est portée par un support matériel, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure. C'est donc ce qu'on appelle une émergence, hein, le mot a déjà été prononcé ici, et effectivement cette information va pouvoir réussir à se reproduire en de nombreux exemplaires ou pas. C'est une idée qui a été un peu abordée par un dénommé Richard Dawkins dans sa vision qu'il appelait le gène égoïste.
Et qui a été un peu mal compris quand même, parce que le gène égoïste...
C'est-à-dire que lui-même, je trouve qu'il n'avait pas été assez extrême sur ce plan-là, parce qu'il définit le gène comme un morceau d'ADN dans ce livre-là. Plus tard, il le redéfinira comme information. Mais dans ce livre-là, il présente le gène non pas comme une information, mais comme une entité matérielle, un bout d'ADN. Ce qui fait qu'il n'était pas arrivé au bout, si vous voulez, de la réflexion sur ce sujet. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est qu'il propose pour la transmission culturelle un analogue du gène qu'il appelle le mème, et qui donc se transmettrait de mémoire en mémoire, et qui seraient donc des petites histoires que j'en raconte. Et donc, voilà, on va aussi développer ça grâce à Jean-Louis Dessalles dans le livre. Mais effectivement, cette vision des mèmes, alors ça, pour Dawkins, le définit bien comme une entité informationnelle. Ce qui est drôle, c'est que ce concept de mème qui est introduit dans le gène égoïste de Dawkins est devenu maintenant un mot assez courant dans la blogosphère. On parle de mème pour des petites informations qui se reproduisent sur le net, hein. Et pratiquement personne ne sait que ça vient d'un généticien, cette idée. Mais ça montre bien à quel point le fait de réfléchir à la génétique et le fait de réfléchir à la transmission culturelle, ça a tellement de points communs qu'on va pouvoir inventer un concept d'un côté qui va servir de l'autre.
Et ça marche à toutes les échelles, hein, autour de la question quel est le fil de la vie. La question se pose aussi au niveau plus large, hein, des écosystèmes. Qu'est-ce qui perdure, persiste, qu'est-ce qui change parfois brusquement sous l'effet d'un changement climatique ou par la main de l'homme. Vous avez écrit tous les deux ce livre avec Cédric Gaucherel, qui est chargé de recherche à l'INRA, spécialiste de l'étude des écosystèmes et des dynamiques de peuplement et des paysages. Il est basé à Montpellier, où notre reporter Charlie Dupiot l'a joint par téléphone.
Nous essayons de comprendre comment on peut passer d'un écosystème à un autre et qu'est-ce qui est transmis justement d'un système à un autre. Lorsqu'on est passé de la forêt à la savane, on garde certaines espèces, on garde certains processus physico-chimiques, et donc lesquels sont-ils et comment les caractériser. Il y a un exemple moi que j'aime bien citer qui pourrait illustrer la chose, hein, c'est ce qu'on appelle le Sahara vert, c'est-à-dire le fait qu'à l'endroit du Sahara actuel, il y a un peu plus de 6000 ans, non pas un désert, mais une savane. Et donc là, il y a eu, sur cette zone-là, un changement assez radical de l'écosystème. Et il y a donc eu, par l'effet du changement climatique qui s'est opéré il y a plus de 6000 ans, un changement avec des espèces qui sont restées, celles qui étaient capables de s'adapter à ce changement de climatologie, et d'autres qui soit se sont éteintes ou alors ont migré. Ce sont les hippopotames, par exemple, qui étaient nombreux au temps paléontologique, au temps plus ancien, et qui ne sont plus présents actuellement qu'en une seule espèce. Il n'y a qu'une espèce d'hippopotame, sauf erreur, actuellement en Afrique. Et voilà typiquement l'influence là, de l'assèchement sur ce groupe d'espèces.
Selon vous, que peut apporter l'écologie à cette étude plus générale du fil de la vie ?
L'apport principal, je pense, c'est une hypothèse de travail. Je ne vais pas dire qu'on en est sûr. C'est une hypothèse que je propose, qui est que les écosystèmes sont un assemblage de composantes vivantes et inertes. Mais c'est justement à cause de cet assemblage que l'écosystème est intéressant. Et les écosystèmes sont peut-être, en tous les cas d'un point de vue informationnel, c'est ce qui a l'air d'émerger, une sorte de chaînon manquant, je dirais, entre des systèmes inertes, inanimés, et des systèmes vivants. Ces écosystèmes mériteraient d'être mieux étudiés, justement, avec une vue plus informationnelle.
Pierre-Henri Gouillon, vous voulez réagir à cet éclairage écosystémique?
Oui, il y a deux aspects que je trouve très intéressants dans ce que nous a apporté Cédric. L'un, c'est l'idée qu'au fond, les écosystèmes possèdent en eux-mêmes une information, et si on réfléchit à l'origine de la vie, on doit bien se dire qu'ont dû se constituer des tas de systèmes autoréplicatifs au départ, jusqu'au moment où ça s'est cristallisé sur des êtres vivants avec de l'ADN et une information codée. Et tout compte fait, il y avait déjà une information codée à l'échelle de ces proto-écosystème chimique de la chimie prébiotique.
Et que cette information. Des tentatives, voilà, des messages, mais qui ne sont pas passés, en fait.
Ben, elles ont réussi un jour ou l'autre à engendrer l'information codée sur l'ADN. C'est-à-dire que la première information, elle a été écosystémique, et puis on est passé à l'information dans l'ADN, et puis l'information dans l'ADN a permis toute l'évolution, et on est arrivé aux espèces animales dans lesquelles il peut y avoir un langage. Et à ce moment-là, il y a un troisième niveau d'information codée qui est avec le langage, et les humains étant un peu les spécialistes de la question, hein, on est sûrement pas les seuls à avoir un langage, mais on est les seuls à avoir des bibliothèques, hein, c'est ce que je dis souvent, et donc on a encore un niveau de plus d'information. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir cette généalogie de l'information de la chimie prébiotique à nos cultures qui nous montre un petit peu l'histoire de l'information au niveau de l'ensemble des systèmes vivants, y compris humains. Et puis ça a quand même une conséquence appliquée que je trouve importante, c'est que si la vision que propose Cédric Gaucherel s'avérait productive, eh bien, je pense qu'en regardant les écosystèmes sous cet angle-là, on pourrait commencer à comprendre comment réagit un écosystème à une contrainte. Il parle de sécheresse là, dans son interview, mais aujourd'hui, je trouve que la question se pose très très crûment avec des essais qui sont lancés pour essayer de détruire totalement une espèce, par exemple des moustiques. Hein. C'est louable, c'est pour éviter que la malaria se propage. Mais comment réagira l'écosystème si on enlève ce moustique? Eh bien, tant qu'on ne le sait pas, on joue un peu aux apprentis sorciers en faisant ça. Parce que si je ne comprends pas le langage de l'écosystème, et si jamais je sais que je lui enlève quelque chose et que je ne me pose pas la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'un autre moustique, encore plus dangereux, va le remplacer? Est-ce que d'autres formes vont s'éteindre et du coup aboutir à d'autres types de problèmes? Je pense qu'on a besoin de devenir un peu prédictif au niveau des écosystèmes, et tant qu'on n'aura pas compris leur langage, on risque fort de faire des bêtises quand on agit dessus sans discernement.
Tout est langage, Jean-Louis Dessalles. Enfin, c'est très intéressant ce que disait Pierre-Henri Gouillon. Et ce système, enfin, c'est pas de poupée russe, mais que finalement, tout est histoire de langage, enfin, dans la vie, au fond, à tous les niveaux.
Alors, si je dis oui, il y a de quoi surprendre, parce que si on prend l'exemple des écosystèmes, on est plus habitué à penser en termes de systèmes, comme on dit, des systèmes dynamiques, ou avec des rétroactions, des choses qui varient continuellement. Et là, on est en train de dire, non, si on regarde à plus long terme, on a des phénomènes qui ressemblent à ceux du langage, avec des résultats tout ou rien. Une espèce s'introduit, une espèce invasive peut s'introduire ou ne pas s'introduire. Et donc, on en vient avec cette clé qui fait le fil conducteur de notre histoire, c'est cette idée de message, de lecture et d'environnement. Si on peut l'appliquer aux écosystèmes, on peut l'appliquer aux langues humaines. Alors on croit souvent que l'information, il faut qu'il y ait un être humain derrière. Il faut quand même se souvenir que le lecteur, celui qui décode, ça peut être une molécule, ça peut être une espèce animale. Dans le livre, on cite un exemple que moi je trouve fascinant, c'est celui des fourmis de Zana Reznikova. On apprend que les fourmis communiquent par contact antennaire. Ça, tous les enfants s'en sont aperçus en observant les fourmis. Oui. Voilà. En revanche, on n'a aucune idée de comment ça marche. Mais dans ces expériences de Zana Reznikova, on s'aperçoit que les fourmis sont capables de s'indiquer des localisations dans un labyrinthe. Et ce qui est remarquable en plus, c'est que plus le chemin est complexe, plus ça prend de temps à expliquer. Donc on ne comprend pas le message, mais si on met un appât dans un endroit compliqué du labyrinthe, s'il faut tourner à droite, puis à gauche, puis à droite, puis deux fois à gauche encore, c'est beaucoup plus compliqué que s'il faut tourner toujours à droite.
Et elles arrivent à communiquer, donc elles ont un langage.
Non seulement elles y arrivent, mais elles prennent plus de temps quand c'est compliqué. Donc ouais. Ça veut dire que leur langage s'adapte à un niveau de complexité qui varie selon la complexité de la chose à exprimer.
Alors, c'est des phénomènes fascinants. On s'aperçoit que, dans ce cas-là, le lecteur, c'est un cerveau de fourmi. L'émetteur, et voilà. Donc elles ont la mémoire qui dure le temps de l'exploration. Mais elles ont un langage. De là à dire que les écosystèmes ont un langage, bon, il y a un pas à franchir qui, au départ, est métaphorique et auquel on essaie de donner de plus en plus de substance au fur et à mesure.
Oui, c'est cette métaphore, elle aide à réfléchir, mais c'est plus que ça. C'est pas juste pour aider à réfléchir.
Voilà, dans le cas des écosystèmes, c'est un programme de recherche. C'est ce que, enfin là, je parle à la place de Cédric. Mmh. Mais il y a dans d'autres domaines, par exemple, quand Dawkins a introduit les mèmes. Est-ce qu'il y a un langage des mèmes? On sait qu'il y a la même. Donc, les mèmes, on prend l'exemple de la recette de la tarte tatin. Moi, j'ai une recette, vous avez la vôtre. Ces deux recettes sont en lutte impitoyable pour passer à la postérité. Peut-être qu'elles vont
toutes les deux. Laquelle va réussir ?
Voilà, peut-être qu'elles vont toutes les deux disparaître au profit d'une autre. Et est-ce qu'il y a un langage qui permet de dire que entre elles, donc il y a la recette de la tatin et puis il y a la recette de qui n'est pas en compétition, la recette de je sais pas quoi, du bœuf stroganoff, elles sont pas en compétition ces deux-là. Mais peut-être qu'elles interagissent. Que ce n'est pas les mêmes personnes qui proposent les deux recettes. Et donc, est-ce qu'il y a un langage derrière ? C'est encore de la science-fiction. Mais dans d'autres domaines, notamment effectivement la communication humaine, on sait que tout cela s'articule selon des langages. Et on commence, dans le cas de la génétique, Pierre-Henri pourrait le dire, à se dire, quand on parle de, par exemple, des pissages, d'édition des gènes, on se dit qu'il y a, peut y avoir de la grammaire derrière. Alors, le fait d'amener une notion, un regard informationnel, permet de se poser toutes ces nouvelles questions d'une autre manière.
Et vous nous avez permis, Jean-Louis Dessalles, vous allez nous permettre tout de suite de nous poser une question en musique, puisque vous nous avez mis sur une très belle piste musicale, c'est celle du Boléro de Ravel, réinterprétée en langue Mina du Togo par Angeliki Jo, sur le fil et sur les ondes de RFI. On écoute et vous réagirez ensuite.
Va, no te va mi, mia do tonase, no te va mia do elo. Mia ruwe mia ro tonase lo lo ya ova mi duelo no viva mia ilo va no viva ro tonase e alo lo no vie no viva ro to agbe ya wo no viva ro to agbe ya wo no viva Mia ilo agbele tekpo o mia ila mia ilo vivida na mesia me
don 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 don
va no te va mi mia no to nace no te va mia duelo mia due mia no to nace lo lo ya ova mi duelo No viva mia ilo Va, no viva roto ne ase E alo lo no via No viva roto agwe yo wo No viva roto agwe yo wo No viva mia ilo Agwe le tekwa wo Mia ila Mia ilo vivida Na me siame
Version sublime d'Angeliki Jo qui a fait passer au fond, c'est ça, hein, le boléro de Ravel en langue mina et passé à la postérité pour le coup, Jean-Louis Dessalles.
Ce morceau, effectivement sublime, nous rappelle que quand on parle de fil de la vie, il ne s'agit pas de parler d'une information immuable. Comme disait un ancien président de la République française, c'est le changement dans la continuité. Là, on voit que le boléro de Ravel, d'abord, le thème dans le morceau se modifie, non pas par les notes, mais par l'orchestration. En plus, il se modifie à travers le temps, puisque là, on le retrouve chanté, alors qu'à l'origine, il était instrumental. Et puis, je ne doute pas qu'il doit exister déjà, il y existera il existe d'ailleurs des versions un peu jazzy, remixées. Donc cette idée de fil de la vie, pourquoi on parle de fil ? Parce qu'on voit la continuité même si le fil se transforme. Et c'est vrai absolument dans le cas de la génétique, où nous avons des gènes en commun avec la mouche.
Nous ne sommes pas des mouches.
Nous ne sommes pas des mouches, mais surtout ces gènes en question, on en perçoit la parenté commune, mais ils ne sont pas exactement superposables. Ils ont changé entre l'ancêtre commun et la mouche et l'ancêtre commun et nous-mêmes. Ils se sont modifiés, mais on voit encore là, cette continuité. Ma recette de tarte tatin peut-être va devenir largement gagnante dans l'histoire des mèmes culinaire, mais peut-être que cette tarte, ma façon de faire, va peut-être se modifier. J'ai une façon peut-être très particulière de faire.
Donc, qu'est-ce qui perdure ou qu'est-ce qui reste le même, que ce soit tarte tatin, boléro de Ravel, nos gènes, autour de la question quel est le fil de la vie ? Je propose de continuer de tirer ce fil immatériel avec un dernier éclairage, c'est celui de Nathalie Machon, professeure au Muséum national d'histoire naturelle, chercheuse en écologie urbaine, qui nous entraîne, elle, dans une nouvelle analogie des gènes à la généalogie. On l'écoute.
Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on peut retracer la génétique des noms de famille. On peut utiliser en fait les mêmes méthodes avec les noms de famille qu'avec les gènes. C'est-à-dire que les noms de famille passent d'une génération à une autre. Il y a parfois des mutations quand à l'état civil ça a mal été retranscrit. Et on peut voir comme ça la généalogie des gens par leur nom de famille. Peut-être pas aussi précisément que par leurs gènes, mais d'une certaine manière. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de faire les analogies entre les noms de famille et les gènes. On peut voir quelle est la dispersion, par exemple, des familles en traçant les noms. On peut voir d'où proviennent les familles grâce à leurs noms, en regardant où il y a le plus de tels patronymes, dans quelle ville. Et on se dit que l'apparition de ce nom de famille vient de cette ville-là, comme on le fait avec les gènes, en fait.
L'analogie fonctionne, hein. Pierre-Henri Gouillon, on peut tirer ce fil-là pour remonter aux origines de nos noms de famille aussi.
L'analogie fonctionne, elle fonctionne d'autant mieux qu'effectivement, au XIXe siècle, l'un des spécialistes de l'hérédité qui s'appelait Galton, cousin de Darwin, qui est tristement aussi célèbre pour avoir inventé l'idée de l'eugénisme, mais a fait un modèle pour essayer de comprendre l'extinction des noms de famille, l'extinction des pairies. Les pairies, les familles de pères d'Angleterre. Et ce modèle, appelé couramment modèle Galton-Watson, est une des bases des modèles mathématiques qui décrivent la transmission de réplicateurs au cours du temps. Donc, effectivement, il y a plein d'analogies qui fonctionnent assez bien, parce que tout compte fait, je pense que notre monde est très largement informationnel. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire à ce sujet-là. La première, c'est que notre science est habituée à regarder de la matière et des transferts de matière et d'énergie. Regarder les choses en termes d'information, ça peut choquer parce que ça fait un petit, justement parce que ça a quelque chose d'immatériel, bien que ça soit absolument fondé sur de la matière et qu'on n'imagine pas une information qui soit pas codée de façon matérielle.
Mais c'est vraiment un changement de perspective.
Voilà, c'est juste un changement de perspective. Et donc, comme énormément de choses fonctionnent de façon informationnelle dans notre monde vivant, eh bien, il y a des tas d'analogies qui fonctionnent. Moi, j'aime bien aussi la métaphore musicale et je pense que le Boléro de Ravel en était un bel exemple, mais effectivement, une partition musicale, c'est une musique écrite qui va pouvoir se transmettre. Simplement, il faut un instrumentiste pour la jouer.
Et il ne va pas la jouer de la même manière, même si les notes sont écrites.
Et voilà, selon l'instrumentiste, ça c'est comme l'information épigénétique dans le biologique. Et puis l'environnement va aussi changer des tas de trucs. Hein. Le même morceau joué dans le métro ou à la salle Pleyel, ça ne fera pas tout à fait la même chose. Et surtout, ce qui est vraiment amusant, c'est que les instrumentistes, quand ils lisent un morceau, quand ils travaillent en orchestre, eh bien, les violonistes doivent marquer ce qu'on appelle les traits d'archet. Ils doivent tous tirer l'archet en même temps ou le pousser en même temps. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui tire pendant que les autres poussent, etc. Et du coup, ils écrivent au crayon sur leur partition ce qu'ils doivent faire, les traits d'archet. Et ils vont garder ça le temps pendant lequel ils travaillent avec cet orchestre-là. S'ils refont le même morceau avec un autre orchestre, ils gommeront ces informations-là et ils le referont avec le nouvel orchestre. C'est exactement ce qui se passe avec l'information.
Donc une information, elle peut se gommer, elle peut être gommée aussi.
Ouais, les informations épigénétiques, c'est exactement ça. Vous avez des petits machins qui sont marqués sur l'ADN pour dire tiens, on va lire ce machin-là ou on ne va pas lire ce machin-là. Et ça peut se retirer quand on veut refaire un autre organe ou quand on veut refaire un descendant. Donc il y a des analogies qui sont incroyablement fortes et je pense que si elles sont aussi fortes que ça, c'est parce qu'il n'y a pas 36 000 manières de lire de l'information. Je rêve qu'un jour on trouve des êtres vivants sur une autre planète, parce que je suis sûr qu'on trouvera des systèmes informationnels qui auront des points communs.
Voilà. Il y aura un fil de la vie commun. Et un de nos auditeurs à Bamako, au Mali, Camara, nous demande, est-ce qu'on pourrait aussi considérer que les mouvements des molécules, par exemple, ou des qui participent donc au changement de la matière, que les atomes soient aussi considérés comme des sortes d'entités vivantes qui participeraient à ce fil de la vie, Jean-Louis Dessalles ?
Alors, dans l'état actuel de la science, ce ne serait pas un bon choix de considérer que c'est possible. Parce que pour qu'il y ait information, pour qu'il y ait fil de la vie, il faut un code qui soit lu, décodé. Donc il y a certainement des structures, les atomes forment des structures. Dans la mesure où ces structures, on ne peut pas expliquer comment elles sont lues, à ce moment-là, on ne peut pas encore parler d'une information.
Bon, il faut le décodeur. Il faut
le décodeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Simplement, il faut, comme on l'a vu pour les écosystèmes, il faut que quelqu'un soit capable de décrire ce morceau de la nature en termes de décodage. Et donc, à ce moment-là, on pourra parler d'information. Encore une fois, l'observateur est essentiel. Dans ce cas-là, l'observateur est un scientifique. Et comme on l'a vu dans l'exemple des fourmis, ce n'est pas forcément un observateur humain. Donc voilà. Et donc l'observateur, c'est ce qu'on voit. Enfin, moi, je suis informaticien de profession, et on a le même problème vis-à-vis de l'ordinateur qu'on a vis-à-vis de la vie. C'est-à-dire,
Imaginez que j'écrive un programme informatique et qu'il ne se comporte pas comme j'ai envie. Et quelqu'un me dit, donc je m'étonne du comportement de mon ordinateur, quelqu'un vient me voir en me disant, me donner une explication tout à fait matérielle, en me disant, ben oui, il y a eu tel transfert d'électrons dans tel transistor, et du coup, les courants se sont comportés de telle manière, et il me fait une explication causale d'un bout à l'autre, qui explique pourquoi tel caractère est apparu à l'écran. Alors que moi, évidemment, je sais que ce caractère est apparu, que ce n'était pas le bon, et en tant que programmeur, j'attends une explication d'un autre niveau, de niveau informationnel et non pas matériel. Je veux savoir où est l'erreur dans mon programme, ce qui est une question logique du niveau informationnel. Voilà. Donc on a un petit peu la même
cette
attitude.
Cette vision-là, hein, voilà, d'avoir une explication informationnelle sur les origines de la vie et le développement et l'évolution du vivant. On va terminer là-dessus, Pierre-Henri Bouillon.
Sur la question que vous venez de poser, un cristal se reproduit aussi. Simplement, il n'y a pas ce phénomène d'hérédité du vivant qui est lié à une information codée et décodée par un système de décodage. Vous pouvez parfaitement expliquer un cristal en connaissant que des forces physico-chimiques. Vous ne comprendrez pas un être vivant, vous ne comprendrez pas la structure complète d'une molécule d'ADN et d'une cellule si vous ne dites pas qu'elle est vivante et qu'elle se reproduit.
Merci infiniment à tous les deux. Merci Pierre-Henri Gouillon, merci Jean-Louis Dessalles d'être venu en direct nous faire partager toutes ces pistes de recherche sur le vivant. Je rappelle le titre donc de ce livre coécrit avec Cédric Gaucherel et publié chez Odile Jacob, Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant. Demain, c'est un autre fil que nous tirerons avec les robots et les machines intelligentes qui nous entourent. Autour de la question comment vivre avec les robots, en compagnie de la présidente du Salon InnoRobot et d'un avocat spécialiste en droit des nouvelles technologies et des robots. À demain pour inventer ensemble un futur qui nous ressemble, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, gardez l'esprit ouvert. Les infos, c'est dans une poignée de secondes sur RFI.